France Musique. Musicopolis. Haydn à Esterhaza, la vie de château. La réputation de Versailles a été extraordinaire en Europe dès la fin du XVIIe siècle et tout le long du XVIIIe. Pensez donc, un château immense, des centaines de pièces, des salons d'apparat, des galeries de glace, des jardins avec des bassins et des bosquets, de quoi faire rêver tout un chacun. Et quand un chacun a de quoi s'en faire construire un lui aussi, il n'a de cesse que de reproduire les centaines de pièces, les salons d'apparat, les jardins avec bassins et bosquets, et même un petit théâtre. Ce grand personnage, qui peut se permettre de se faire construire un genre de château de Versailles, c'est le prince Nicolas Esterhazy, dit Nicolas le Magnifique, à juste titre. Depuis qu'il est devenu prince en 1762, à la mort de son frère aîné Paul Anton, sans descendance, il a entrepris de faire de sa petite résidence de Verteude, près du lac de Neusiedl, un véritable palais qu'on connaîtra bientôt sous le nom d'Esterhaza, à 100 km environ au sud de Vienne. Pendant qu'ont lieu les travaux, le prince et sa famille vivent le plus souvent à Vienne ou dans leur château d'Eisenstadt, à mi-chemin entre la capitale et le futur château. Dès l'été 1766, le chantier d'Esterhaza est suffisamment avancé pour pouvoir y passer 2 mois d'été. Et la famille se transporte donc avec toute sa maisonnée, notamment une partie de la troupe de musiciens. À la tête de la troupe de musiciens de Nicolas Esterhazy le Magnifique se trouve celui qui avait été engagé par son prédécesseur, son frère Paul Anton, comme vice-kapellmeister, Joseph Haydn. Il y a peu, Haydn est devenu kapellmeister à part entière à la mort de son prédécesseur. Cette année 1766, où pour la première fois le prince Nicolas passe une partie de l'été à Esterhaza, Joseph Haydn vient de fêter ses 34 ans. Voici 5 ans qu'il travaille pour la noble famille hongroise. Lorsque Nicolas Esterhazy a hérité de son frère Paul Anton, il a été très heureux de pouvoir compter Joseph Haydn parmi ses employés. Haydn est un musicien très complet, dont les talents s'exercent dans tous les domaines musicaux. D'ailleurs, ses attributions sont très diverses, puisqu'il doit faire office de directeur musical, diriger l'orchestre, choisir le répertoire, assurer les répétitions et les exécutions, mais il doit aussi faire office d'archiviste et de bibliothécaire. Et il doit aussi tenir les instruments en bon état et même veiller au bon comportement des musiciens. Avec tout ça, bien sûr, on lui demande de composer dans tous les genres, vocal, instrumental, profane, religieux, et même des pièces pour le baryton de la famille des viols de gambe, l'instrument de prédilection de Nicolas. On a beaucoup dit que Haydn, chez les Esterházy, était considéré comme un valet. Ça n'est pas tout à fait ça. Parmi les catégories d'employés du prince, Haydn appartient à celle des officiers. Et pour le niveau de salaire, il est le troisième de toute la maison. Certes, il n'est pas totalement libre, puisqu'il a été engagé par contrat et qu'il est censé se conformer à l'attente de son employeur, comme c'est le cas encore aujourd'hui pour tous ceux qui ne sont pas à leur compte. Mais il jouit néanmoins d'une liberté artistique tout à fait appréciable. Nicolas Esterházy a une immense ambition pour son nouveau palais et il met les moyens nécessaires pour les réaliser. Dans son voyage en Allemagne, Gaspard Risbeck décrit ainsi les lieux. À la seule exception de Versailles, il n'y a sans doute rien en France qui puisse lui être comparé en magnificence. Le château est très grand et déborde d'objets de luxe. Le jardin contient tout ce que l'homme peut inventer pour parfaire ou, si vous préférez détruire, l'œuvre de la nature. Des pavillons de toutes sortes semblent abriter des fées voluptueuses et le tout ressemble si peu aux ouvrages habituels de l'homme qu'on s'imagine plongé dans un rêve merveilleux. Le palais du prince Esterházy et son jardin sont tellement merveilleux que Goethe a appelé l'ensemble le royaume des fées. Les travaux durent longtemps, mais à partir de 1768, le château est habitable et toute la maisonnée du prince vient s'y installer. L'un des événements est l'inauguration de la salle dans laquelle désormais seront représentés toutes sortes d'ouvrages dramatiques. la salle d'opéra, écrit un témoin, surpasse en beauté et en somptuosité tout ce qu'on peut se figurer en ce genre. L'or, les glaces, les dorures, les pendules, les statuettes et divers autres ornements de prix y sont répandus avec goût sur la galerie et dans les loges.
Presto, presto, grillettina, da mio caro alla manina.
Se mio caro, eccola qui, eccola qui.
Caro,
caro,
cara,
caro,
cara, cara,
caro,
cara,
caro,
cara. Bravi, bravi, vi ho venduto. Bravi, bravi, vi ho venduto. Giusto tempo son venuto. Ho scoperto come va.
Fu stacciando.
Disgraziati via di qua.
Ma, signore, portatore.
Ma, signore,
portatore.
Ho scoperto come va.
Maledetto,
via di qua.
Che dispetto.
Via di là, via di qua, via di là.
Un tremore nel mio cuore.
Non so dire cosa sarà.
Che tormento che mi sento.
Pour l'inauguration du théâtre de son nouveau château, en 1768, le prince Nicolas Esterhazy a bien fait les choses. C'est le premier été où de nombreuses festivités ont lieu. Pour les anniversaires ou les fêtes des divers membres de la famille, il y a toujours des concerts, festins, feux d'artifice et autres. Mais on a réservé l'inauguration du théâtre pour le mois de septembre, où a lieu la visite de l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche et de son époux. Pour cette occasion, le maître de chapelle Haydn a composé un petit opéra bouffa, Lo Speziale, c'est-à-dire l'apothicaire.
Presto portate qua, per quel mal di stomaco vi volere un barbaro, per quel il corpo stitico la mamma opererà, la mamma opererà.
Quanto insuffice di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione.
Di questo quanto insuffice di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione.
Per quel mal di stomaco, per quel mal di stomaco, i chiodi mangerà, mangerà, mangerà.
E quel che il corpo stitico, le viscere andrà.
Soffici di questa due manipoli faremmo una pozione ed una confezione ed una confezione.
Per quel caval di stomaco, per quel caval di stomaco, i chiodi mangerà.
E quel che il corpo stitico le viscere andrà. Le viscere andrà,
ah, 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 ah. Le viscere andrà, ah, 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 ah. Le viscere andrà, andrà, andrà.
Pour son Lo Speziale, l'opéra créé pour l'inauguration du théâtre du Palais d'Esterhazy, Haydn a dû totalement revoir le livret de Goldoni pour s'accommoder de la petite troupe dont il dispose. En effet, cette année-là, il n'a que 4 chanteurs, 2 sopranos et 2 ténors. Pas top pour une distribution d'opéra bouffa, donc il a fallu donner un des rôles masculins à une soprano et transformer une partie de basse en ténor. Le prince Nicolas a été très satisfait néanmoins de la musique si vivante et si pimpante de son maître de chapelle et du talent de sa troupe. Il a donné le lendemain une gratification de 24 ducats à son compositeur et de 6 ducats à chacun des chanteurs. À présent que le prince a son théâtre, il va s'en servir. Comme le dit un témoin, on y a tous les jours alternativement opéra italien ou comédie allemande. Et bien sûr, la responsabilité des opéras repose sur les épaules du maître de chapelle, à savoir Haydn. À tel point que dans les années 1770, il va se transformer en véritable impresario de théâtre. Au début, les pièces parlées dominent. Et sur les quelques 235 soirées de divertissement, il n'y a, si l'on peut dire, que 50 soirées d'opéra, pour lesquelles il faut faire tout un travail en amont. Pour les ouvrages d'autres compositeurs, puisqu'il ne peut pas tout composer lui-même, Haydn doit arranger les partitions et les livrets pour que tout s'accorde à la troupe, à l'orchestre et au goût du prince. Haydn accélère souvent les tempos. Il ramasse les intrigues, il condense les airs. Tout ça, c'est du boulot. Et puis, il y a ensuite toutes les répétitions, le travail du chef de chant et de chef d'orchestre. En tout cas, l'ensemble doit beaucoup plaire au prince, puisqu'au milieu des années 1780, les soirées d'opéra augmentent jusqu'à 125 dans l'année. Un soir sur trois, c'est énorme, avec 8 nouvelles productions par an et 9 reprises. On se doute que la production de toutes ces représentations d'opéra pour le théâtre du prince Nicolas dans son beau château tout neuf d'Esterhaza représente un travail à temps complet. Et même plus que complet lorsque Haydn compose lui-même un opéra, au moins un par an, plus un opéra pour le théâtre de marionnettes. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi un théâtre de marionnettes qu'il faut alimenter. Le maître de chapelle Haydn et sa troupe ne chôment pas. Remarquez que de toute façon, à Esterhaza, il n'y a pas grand-chose à faire. Parlant de la campagne autour du château, une région plate et marécageuse, un témoin dit qu'on a peine à imaginer quelque chose de plus triste ni de plus déprimant. Aussi, les musiciens sont-ils ravis lorsque toute la maisonnée reprend le chemin de la ville, Eisenstadt ou mieux encore, Vienne. Mais parfois, le prince tarde à donner le signal, il aime tant son château. En 1772, le prince Nicolas est tellement bien à Esterhaza qu'il ne songe plus à revenir dans des endroits plus civilisés. Les musiciens n'en peuvent plus, ils pétitionnent auprès de Haydn pour qu'il fasse quelque chose. L'histoire raconte qu'il écrit ce final de symphonie, intitulé depuis « Les adieux », dans lequel les musiciens s'en vont l'un après l'autre après avoir soufflé leur chandelle. Être enfermé dans son château pendant tant d'années n'a pas empêché Haydn d'avoir des contacts avec l'extérieur et il a fait, avec le prince, de nombreux séjours dans d'autres villes. Néanmoins, il s'est retrouvé comme dans un laboratoire. Il dit lui-même « À la tête d'un orchestre, je pouvais faire des expériences, prendre des risques. Personne n'était là pour me faire douter de moi. De sorte que sans l'avoir voulu, je devins original. » Non seulement Haydn est devenu original, mais il s'est fait connaître. Et il a pu faire publier ses œuvres en Angleterre, en France et à Vienne. S'il est physiquement à Esterhaza, sa musique, elle, se propage. Ses intérêts sont à présent loin de sa vie du château. Le final presto de la 92e symphonie de Haydn, dite Oxford, l'orchestre baroque de Fribourg dirigé par René Jacobs. tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Jean-Louis Deloncle pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.